Iran les raisons de la colère. Depuis jeudi, les Iraniens défilent dans de nombreuses villes du pays, notamment pour protester contre les difficultés économiques que traverse le pays, mais aussi pour réclamer des évolutions sociétales, partie de Majdad, deuxième ville d'Iran et bastion de l'opposition au président réformateur Hassan Rouhani. La contestation s'est propagée à travers le pays. Certaines manifestations ont dégénéré en violence. La télévision d'État iranienne a annoncé le décès de 13 personnes. Le président Rouhani a pris la parole pour reconnaître le droit des Iraniens à critiquer leurs institutions, mais aussi pour menacer les fauteurs de troubles de sévères punitions. Qu'en est-il aujourd'hui et comment analyser ce mouvement? Bonjour Nahal Tajadod, vous êtes écrivain d'origine iranienne. Vous avez notamment publié Les simples prétextes du bonheur chez Lattès. Un chercheur parle dans la matinale du Monde aujourd'hui d'une véritable révolution. Il explique qu'il s'agit d'un mouvement sans précédent. On parle de révolution des œufs ou alors il y a une expression peut-être un peu plus vulgaire.
Tout d'abord, bonjour. Oui, tout a démarré en effet à cause de l'augmentation du prix des œufs en Iran. Alors il y a un jeu de mots. En effet, j'avais pas relevé, mais vous me l'avez montré. Peut-être entre là, il faut être un peu vulgaire tout le matin du 2 janvier entre le mot œuf et les couilles. Alors je pense que ce chercheur voulait parler de ça, mais en effet. Pour répondre à votre question, c'est pas, c'est très tôt de dire qu'il s'agit d'une révolution. Même au moment de 79 en Iran, le mot révolution est venu très tard. On a parlé d'abord de révolte. Ensuite, je me rappelle, c'était peut-être un journaliste français, je me rappelle pas qui c'était, qui a dit ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Là, je pense pas que ce soit une révolution. C'est même peut-être une protestation. Et c'est déjà pas mal parce que en 40 ans, il y en a eu très peu. Même au moment de 2009, à cause du mouvement vert, ce qui s'est passé a été localisé à Téhéran et c'était pas à l'échelle du pays et surtout pas dans les petites villes de province dont on connaît même pas les noms. C'est des toutes petites villes de province. Alors, je pense que pour le moment, il s'agit que d'une protestation.
Elles ressemblent à quoi ces petites villes? Puisqu'alors, donc, on explique aujourd'hui que Téhéran est plutôt à la traîne, que ça se déroule plutôt en province. Quelles sont les spécificités de ces villes de province, Nahal Tajadod?
Alors moi, je suis originaire d'une province du nord, Mazandaran, et justement, Sori a été touchée, la ville de Mazandaran. Et cette ville-là, je peux vous dire, c'est une toute petite ville, très privilégiée, parce que c'est le poumon vert de l'Iran, le Mazandaran. L'agriculture, c'est là où le blé, le coton, le riz de l'Iran est cultivé. Moi, ma mère était grande propriétaire terrienne et à cause des réformes agraires. Déjà par la révolution blanche du Shah en 1971 et après avec la révolution iranienne, il y a eu des confiscations de terres et les gens, les paysans en ont bénéficié, c'est-à-dire ils ont eu des terres. C'est pas là-bas, je peux pas parler d'un problème économique pur parce que c'est vraiment les gens qui sont par rapport aux autres régions de l'Iran, disons, privilégiés. Alors quand à Sari, il y a une manifestation, moi j'ai appelé des gens, des amis qui vivent à Sari et là-bas, ils ont vraiment eux aussi parlé. Alors là, je vais vous dire que c'est pas tellement comme au moment de la Révolution verte où il y avait la classe moyenne qui réagissait contre la tricherie dans les élections. Là, c'est le petit peuple, les classes défavorisées. Alors, c'est pas les paysans qui ont des terres, mais c'est ceux qui sont au chômage, la jeunesse. On parle maintenant de 30% pour la jeunesse, de taux de chômage pour la jeunesse iranienne. Et c'est une jeunesse diplômée. Donc là, on m'a dit que c'était vraiment les jeunes qui étaient défavorisés et qui trouvaient pas d'emploi.
Avec donc en toile de fond la question de la cherté et des prix.
Bien sûr. Alors là, il faut dire qu'ils ont réussi les dernières années à baisser le taux d'inflation parce qu'aujourd'hui c'est autour de 10%, mais l'Iran a connu un taux d'inflation de 40% aussi. Mais c'est vrai que la vie est très chère. Tout augmente tout le temps. Moi-même, je vais très souvent en Iran et à chaque fois, la première chose qu'on me dit, c'est par rapport à il y a 6 mois, tout a augmenté. Et il y a ça et il y a aussi à côté de ça, par exemple, exemple, Porsche, la concession Porsche a été en chiffre d'affaires réalisé sa plus grosse taux de vente en Iran. Donc, il faut voir, il y a deux poids, deux mesures. Il y a d'un côté le peuple qui reste vraiment avec le chômage, l'inflation et un ingénieur iranien gagne avec 5 ans d'expérience 1 500 € par mois. Et vous pouvez imaginer que, enfin, à Téhéran, le prix du mètre carré est à 10 000 €, comme à Paris. Alors, comment peuvent accéder les gens à la propriété dans ces cas-là? Alors, tout ça donne une situation d'injustice totale entre les gens qui ne gagnent pas vraiment assez et de l'autre côté, les gens qui s'achètent des Maserati, des Porsche et des appartements à 10 000 € le mètre carré.
On lit d'ailleurs des chiffres de corruption qui sont des chiffres tout à fait étonnants. Je ne sais pas s'ils sont corroborés.
Oui, on dit que ça, dans les calculatrices, on ne peut pas les mettre tellement il y a de zéro.
Oui, on parle donc de dirigeants du régime qui auraient des fortunes en milliards, j'ai bien dit,
exactement,
en milliards de dollars.
Oui. C'est vrai, et même le régime en parle, et à un moment donné, même le guide a dit une phrase, oublions ce chapitre. Donc, il y a surtout beaucoup de gens qui se sont enrichis au moment des sanctions, justement à cause des sanctions, parce que à cause de l'économie parallèle. Et une des raisons aussi pour revenir aux protestations actuelles, c'est aussi au moment où les sanctions, c'est-à-dire après les accords sur le nucléaire, le peuple iranien a espéré beaucoup. C'est dit, voilà, l'Iran va revenir dans le concert des nations et aussi, surtout, il va y avoir des investissements, il va y avoir le commerce. Et cela ne s'est pas passé à cause des Américains, justement, qui, vous savez, aujourd'hui, une entreprise française, c'est illégal, mais à cause du poids des Américains, ne peut pas investir en Iran. Donc ça, c'est vraiment aussi de ce côté-là, les Américains, l'administration Trump, n'a pas laissé les choses se faire et le peuple iranien, là, a été vraiment une fois de plus trompé.
Et c'est ce qui expliquerait donc cette frustration particulièrement marquée chez les jeunes, puisque là aussi, vous l'avez dit, c'est important d'insister à ce sujet, Nahal Tajadod, le niveau d'éducation des Iraniens et des Iraniennes est particulièrement élevé et ces jeunes gens ne trouvent pas de travail.
Oui, il faut dire que par exemple, dans les universités, il y a 75% de femmes, c'est-à-dire les femmes iraniennes sont encore plus diplômées que les hommes et ces jeunes-là sont, on dit que l'Iran fournit en ingénieurs deux fois plus que les deux pays arabes, 22 pays arabes de l'entourage du voisinage de l'Iran. Donc c'est vrai que c'est un pays surdiplômé et aussi bien les femmes que les femmes encore plus que les hommes. Et il n'y a pas assez d'emplois pour ces jeunes-là qui alors évidemment, il y a aussi le côté économique, mais là, on entre dans une classe moyenne qui, évidemment, a aussi des visées démocratiques. Et là, ça peut changer. C'est-à-dire, au moment de la Révolution verte, il y avait la classe moyenne de Téhéran qui a réagi. Et aujourd'hui, le mouvement n'a pas été répercuté sur le reste de l'Iran. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les petites villes de province et plutôt les classes un peu plus défavorisées.
Et alors, c'est particulièrement embêtant pour le régime, puisque c'est son assise traditionnelle.
Pas complètement. C'est-à-dire, le régime iranien vraiment repose sur les classes défavorisées. Et jusqu'à maintenant, s'ils ont pu rester, et malgré la guerre Iran-Irak, malgré les sanctions perdurer, s'ils ont pu perdurer, c'est aussi à cause de cette assise populaire.
Mais alors, c'est quand même un peu étrange parce que on lit, alors peut-être que c'est particulièrement faux, mais moi je l'ai trouvé dans la Tribune, par exemple, que la fortune du guide suprême Ali Khamenei était évaluée à 95 milliards de dollars. Comment imaginer, par exemple, que la classe moyenne, quelle que soit d'ailleurs la classe, ait apporté son soutien à un homme qui ait atteint ce niveau de corruption? Quand on parle, par exemple, d'un niveau de corruption de 4 ou 5 milliards de dollars pour Vladimir Poutine, on trouve la somme énorme. Peu importe d'ailleurs le niveau Le volume de corruption, on est face à une situation qui est tout à fait étonnante.
Je pense que c'est vraiment exactement comme ce qui s'est passé avec les États-Unis et Trump. C'est la classe populaire défavorisée qui a voté pour Trump, malgré la richesse colossale de Trump. Dans ces cas-là, ce n'est pas la raison, c'est peut-être d'autres éléments qui parlent aux gens défavorisés. Et là-dessus, l'Iran ressemble un petit peu aux États-Unis, c'est-à-dire ce populisme qui aussi peut répondre à votre question.
Autre situation et autre chose qui serait en train d'évoluer, c'est la condition des femmes, avec notamment le port du voile. Alors, il y a une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, une femme enlevant son voile. Semble-t-il, cette photo a été prise auparavant, elle n'est pas liée directement aux événements, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses seraient en train de bouger à ce sujet. Il y a véritablement une volonté chez un grand nombre de femmes.
En tout cas, il y a une volonté pour le retrait du voile. Vous savez, le voile, l'histoire du voile en Iran est ancienne, parce que déjà en 1936, le père du Shah d'Iran, Reza Shah, il a imposé le retrait du voile. Et à cette époque-là, il y a eu des femmes qui ont résisté, qui n'ont pas quitté le foyer, enfin leur maison, pour ne pas se montrer en cheveux. Et moi, je sais que, par exemple, ma grand-mère est vite allée se faire couper les cheveux à la garçonne, et donc sortir en tailleur, etc. Donc il y a eu à ce moment-là tout le contraire de ce qui s'est passé au moment de la révolution. C'est-à-dire au moment de la révolution, moi j'ai jamais vu ma mère en foulard, moi-même je portais pas le foulard, tandis que la jeune génération est née avec. Donc il y a eu toujours moi je suis née en 1960.
Et mais lorsqu'on allait les petites villes,
je vous parlais de Téhéran, de l'université de Téhéran, de l'administration. Dans les banques, quand on allait, par exemple, dans les années 70, dans les restaurants à Téhéran, les femmes ne portaient pas le foulard. Alors, il fallait aller au bazar, ça c'est vrai, et c'est le bazar qui a fait la révolution, cette petite bourgeoisie islamique qui était restée en retrait par rapport au pétrodollar du Shah. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'en province, alors là, il y avait le tchador, mais les femmes n'étaient pas obligées ni de porter le foulard, ni de ne pas le porter. Mm-hmm. Ça, c'était sous le règne de Mohammad Reza Pahlavi. Et avec la révolution et l'obligation du port du foulard, alors toutes les femmes ont été voilées. Le régime aurait voulu que les femmes iraniennes portent le tchador, c'est-à-dire le long tissu noir. Et c'est la résistance de la jeunesse et des femmes iraniennes qui a fait que si vous baladez dans Téhéran aujourd'hui, c'est vraiment le foulard. Je ne parle pas de l'administration, parce que c'est le foulard c'est comme une sorte d'uniforme et ses côtes. Mm-hmm. Mais dans la rue, c'est comme un bandeau qui protège une partie des cheveux. Et ça, depuis 40 ans, c'est vraiment une sorte de régal pour les yeux des gens qui y vont, parce que ça montre la résistance quotidienne des gens.
Est-ce qu'on peut imaginer que le foulard devienne absolument optionnel aujourd'hui en Iran ?
On était parti vers ça, je pense. Rouhani l'avait en quelque sorte annoncé, et c'était possible, parce que la société iranienne est tout à fait prête pour ça. Moi, j'étais au lycée français de Téhéran dans les années 70, et il y avait une piscine dans ce lycée. Mmh. Et je sautais dans la piscine, je plongeais en bikini dans les années 70. Parallèlement, il y avait des écoles islamiques qui interdisaient, où il y avait un concours pour ces filles, et on leur demandait: est-ce que votre mère sort en mini-jupe? Donc déjà, il y avait une sorte de fossé immense entre moi qui plongeais dans la piscine en bikini et une école islamique, peut-être à 10 kilomètres du lycée français de Téhéran, qui demandait si on écoutait de la variété, si les mères écoutaient de la variété iranienne. Donc ce fossé-là a disparu aujourd'hui. Les femmes iraniennes, à 75% surdiplômées, n'ont pas les réflexes islamistes, où elles sont féministes, elles travaillent, elles divorcent, elles conduisent, elles fument. C'est vraiment des femmes comme les femmes occidentales, avec des revendications de femmes libres. Et donc le fossé entre cette petite fille qui nageait en bikini et l'autre qui n'avait pas le droit de se montrer en mini-jupe dans des écoles au même moment à Téhéran a disparu.
Et alors, pensez-vous que le pouvoir puisse avoir l'habileté d'entendre ces revendications ou bien va-t-il camper sur des positions dures avec le risque?
Alors là, c'est vraiment le risque, c'est-à-dire il y a deux voies. Il y a la voie dure, peut-être des pastarans, des gardiens de la révolution, d'oppression et de réprimer ce mouvement, ce qui n'est pas dans leur intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, bien sûr, mais c'est pas dans leur intérêt. Et la voie de l'ouverture, parce que avec l'ouverture, c'est ce que prêche Rouhani, disons, c'est aussi d'accorder une sorte d'espace politique libre. Et cette voie-là, moi, je pense que c'est salutaire pour le régime et bien entendu pour le peuple iranien qui ne demande que la paix et le droit d'exister, de travailler comme tous les autres peuples. C'est des gens qui veulent vraiment, qui aiment l'art, qui aiment la culture, qui aiment la poésie et qui ne sont vraiment pas... Alors, on parle de casser des casses et tout ça. Et imaginez, il y a eu des milliers de gens dans la rue. Mmh. Il y a eu deux voitures de brûlées. Et regardez ce qui s'est passé dans la banlieue parisienne hier. Donc, pour une fête, il y a eu deux policiers qui ont été tabassés en banlieue parisienne. Et en Iran, des milliers de gens sont dans la rue et deux voitures ont pris feu.
On va continuer à évoquer cette situation en Iran avec donc cette révolte qui monte. Révolte des œufs, je ne rappelle pas l'autre nom de cette révolte. On verra quelles peuvent être ses conséquences à l'échelle géopolitique et puis sur le plan politique de la politique intérieure du pays. Vous restez avec nous, Nahal Tajadod. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les simples prétextes du bonheur. C'est publié chez Lattès et vous serez rejointe aux environs de 8h20 par Bernard Ourcade, qui est directeur de recherche émérite au CNRS.